Gab, bon mardi.
Alex, comment ça va?
Je pense que ça va bien, je pense. Oh oui, ça va bien.
Écoute, je pense qu'on va très, très bien cette semaine. Je pense qu'on va très bien. Puis, on a des choses excitantes qui s'en viennent, dont on va vous parler tantôt. On va faire les nouvelles. On va présenter notre premier essai d'un véhicule de flotte, un véhicule de presse qui nous a été prêté par GM Canada. On a essayé un Sierra Denali 6.2 full équipe cette semaine.
Toute la patente.
Je pense que ça va valoir la peine d'écouter. Puis, on a une petite mission pour vous. On veut continuer de créer du contenu comme ça. On veut pouvoir essayer plus de voitures. Puis pour ça, ben, il va falloir qu'on aille chercher une audience toujours de plus en plus grande. Fait que votre mission pour cette semaine, si vous pensez qu'on le mérite, c'est de parler du podcast à un ami ou partager le podcast sur les réseaux sociaux. On va aller chercher plus de gens. En bâtissant notre audience, ben, ça va nous donner le temps, l'opportunité de créer plus de contenu, puis du meilleur contenu, puis de continuer de vous donner ce podcast-là toutes les semaines.
Ouais, puis aussi, ce que je veux rajouter, on a maintenant aussi une page Instagram, parce qu'on trouve que c'est comme le meilleur moyen de partager nos pensées, puis évidemment, c'est des photos, l'Instagram. Et ceux qui décideront, s'ils le veulent bien, de partager leur podcast à des amis, famille ou autres personnes, si vous allez sur Instagram, plus de millage dans un mot ou avec les espaces, peu importe, vous allez arriver sur notre page et le lien va vous emmener sur toute notre plateforme, la chaîne YouTube, Spotify, whatever, tout est là. Fait que ça va être super simple, il n'y a pas trop de clics là-dedans. Donc, page Instagram, plus de millage, tout est là.
Oui, puis sur la page Instagram, on va vous partager du contenu plus régulièrement que le podcast, là, plus sur une base quotidienne qu'hebdomadaire dans ce cas-là.
Ben, en réalité, si on ferait un essai, il y aurait déjà des photos de ce qui se passe pendant qu'on essaye la voiture puis on pense. Nos pensées vont juste être jetées là-dedans là, d'une façon intelligente et factuelle.
Ceux qui se sont abonnés à la page Instagram ont eu, disons, une primeur sur l'essai qu'on a fait cette semaine du Sierra Denali. Avant ça, on va faire les nouvelles, par exemple. Alex, le Toyota Tundra est-il dévoilé?
Ben presque. Dimanche. Le 19 septembre, donc la veille d'ailleurs de mes vacances, d'ailleurs, ça c'est important de le dire. Il va être dévoilé 9h, heure de l'Est, en fait 21h, excusez-moi. Ça s'en vient. Là, évidemment, Toyota a sorti un petit fascicule avec toutes les photos, là. Mais tu sais, il n'y a pas grand-chose à part que le TRD Pro est blanc. Mais chose importante, là, je te coupe, Gab. Toyota est allé à la méthode... Ils ont mélangé la méthode Ram et la méthode Ford. Moi, je soupçonne qu'il va avoir seulement un moteur turbo, le V6 qu'il y a dans un des produits Lexus, et aussi un hybride, je soupçonne. Mais il y a une suspension à coil spring en arrière. Comme
donc,
Ram.
Exactement. C'est des ressorts hélicoïdaux. Donc, plutôt que d'avoir des lames de ressort, ressorts hélicoïdaux, ça amène plus de confort dans le Ram. Il y a des gens, c'est certain, qui vont dire « Ah, c'est moins bon pour travailler », mais la réalité, c'est que ces camionnettes-là sont généralement pas utilisées au maximum de leur capacité de toute façon. Là.
Dans le pire des cas, il y a de la suspension à l'air sur le Ram. Est-ce que le Tundra va avoir une suspension à l'air? Regardez, sur la même plateforme, il y a le Land Cruiser puis le Lexus LX 580 ou 570, je me souviens plus si on changeait le moteur. Il y a une suspension à l'air là-dessus. Fait que, c'est du parts bin special, comme on dit en anglais.
Effectivement. Puis les gens, de toute façon, ceux qui jugent qu'en ont besoin rajoutent, comme on dit au Québec, des ballons pour augmenter la capacité de charge. Là, puis la suspension à l'air, ça permet aussi un peu de faire ça. Fait qu'on va voir ça dimanche, puis on va vous donner des nouvelles.
Probablement que ce qu'on va faire, c'est que sur Instagram, quand ça va sortir, là, on va juste tout jeter là-dedans, au moins pour les gens, parce qu'on n'en essayera pas un demain. Là. Mais au moins, l'information factuelle va être là, puis ça va être bien. Puis on a hâte, parce que là, le Tundra, fait longtemps. Sorti en... Quelle année, Gab? 2009?
2007, je pense.
2007!
Ah! Oui. 2007. Il y en a qui ont eu le temps de se rendre à 1
million. J'étais au secondaire, Gab, en
2007. Alex, il y a des pick-up Toyota Tundra qui ont 1 million de mille, puis ça fait plusieurs années, puis la génération n'a pas encore changé. T'imagines?
Tant mieux. Ah, c'était-tu la seule nouvelle qu'on avait?
En fait, on a une autre nouvelle qui va être enchâssée dans l'essai routier de la semaine.
Ouais. Mais bon, allons-y là, pour vrai, parce que là, on a comme beaucoup de choses à dire. L'essai routier du Sierra Denali. Là, vous allez me dire, ouais, mais vous n'êtes pas toujours les véhicules électriques. Oui, OK, mais gardez. General Motors Canada nous a donné notre première chance. On est super contents d'ailleurs. Merci beaucoup. Et c'est ça qu'il y avait. Puis en fait, on est bien contents parce que c'est quelque chose que j'avais jamais réellement essayé. Puis, tu sais, je ne suis pas une personne de camionnette, donc ça m'a fait sortir un peu de ma zone de confort. Fait extrêmement satisfait de l'essai que j'ai fait. Expérience complètement différente. Ça m'a fait penser à plein de choses. Donc, somme toute, bien contents. Rapidement, vite, là. C'est un Sierra Denali 2021. C'est le 6.2, moteur en option. C'était la boîte de 5.5 pieds, donc la plus petite boîte, pas en carbone. C'était la seule option qui manquait. PDSF de 86 000 $ 84 sur le petit papier, le window sticker, comme on dit en bon anglais.
En fait, c'est ça. Ce qu'on a eu, c'est ce qu'on a pu essayer. C'est vraiment un Sierra Denali. Pas mal full équipe, comme on dit. Donc, il y avait la plupart là, des options qui s'ajoutent par-dessus le prix de détail là, normal d'un Sierra Denali qui est déjà sur 10 000 $. Donc, c'est vraiment un véhicule qui avait toutes les caractéristiques, tous les avantages, toutes les options qu'on peut imaginer, ou presque, sauf peut-être la boîte en fibre de carbone. Puis, on a vraiment été gâtés cette semaine, puis on va vous donner nos impressions quand même transparentes, là, puis honnêtes là-dessus. Il y a des choses qui sont incroyables, il y a des choses qui pourraient être mieux.
Moins incroyables.
Puis on va discuter de ça.
Mais d'emblée, tu regardes ça, tu sais, c'est le véhicule porte-étendard de GMC, là, la sous-marque là, de GM. Là. Tu sais, c'est comme le plus gros, le plus... Oui, tu pourrais avoir un 2500 HD, mais à la fin, dans ma tête, là, le commun des mortels, si ça le permet, va acheter du 1500. Tu sais, à la fin, c'est comme un Cadillac Escalade sans le surluxe qui est ajouté là-dessus. Là. C'est les mêmes capacités, la même performance là, à la fin. Là.
Effectivement. On peut s'imaginer ça un peu comme la version camionnette du Cadillac Escalade qui n'existe plus, le Cadillac Escalade XT.
Est-ce que ça fait partie de tes voitures de rêve, ça? Oui, hein?
Ouais, mais encore aujourd'hui, là... Ben là, en fait, non. À la lumière de l'épisode d'aujourd'hui puis de notre essai, j'ai changé ma vision. Je pensais que le Cadillac Escalade XT, c'était la meilleure camionnette, mais la réalité, c'est que... C'est pas grave qu'il soit disparu parce qu'il y a autre chose qui a pris sa place.
Il y a autre chose qui le remplace. Puis rapidement aussi, parce que c'est la première fois qu'on fait ça, on a essayé de trouver un format qui fait du sens sur comment genre gérer notre pensée. Là. Rapidement, comment c'est fait, on a les points forts, les points faibles, un peu comme les guides de l'auto ou les annuels automobiles de ce monde. La conduite, le laisser routier que l'on a fait. J'aime le point qualité. Moi, je suis une personne, j'aime ça, la qualité. Là. Qu'est-ce que j'ai vu d'un point de vue d'assemblage, qualité, de fiabilité perçue, parce qu'évidemment, je ne l'ai pas conduit pendant 200 000 km, mais qu'est-ce l'assemblage, les choix technologiques, tout ça. Appréciation générale, fait que c'est comme un résumé de tout et un peu mon opinion. Et c'est ça. Puis dans le fond, on va descendre. Moi et Gab, on va faire chacun des points. Parce que le but, ça a été de l'essayer de façon séparée, de ne pas se parler entre les deux, justement pour pas influencer personne.
Ouais, effectivement. En fait, on s'est échangé le véhicule à Drummondville. Donc, moi, j'avais un siège dans un train. Je suis débarqué du train. Alex m'a donné les clés. Il est monté dans le même train en direction de Montréal. J'ai pris la camionnette dans le stationnement à Drummond. Je l'ai amené à Québec, puis je l'ai ramené à Montréal un peu plus tard.
Donc, on va commencer pour de vrai. Là, on est prête, là, c'est fini l'introduction. Là. Les points forts. Rapidement, ça c'est sûr que moi et Gab, on a le même. Le groupe motopropulseur. Première affaire qui m'a surpris. Le 6.2, j'allais m'y attendre. Sonorité, c'est le moteur de la Corvette. C'est malade, c'est puissant. Il y a 460 livres de torque. Tu sais, ça y va. Mais la transmission 10 vitesses. C'est comme s'il n'y avait pas de transmission. Toujours dans le bon rapport, tu as tout le temps du torque. Quand tu demandes du power, c'est instantané, ça rétrograde. J'ai trouvé ça merveilleux. Et des camionnettes, souvent les transmissions, c'est moyen. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mes parents ont un RAM avec la 8 vitesses ZF, qui est une transmission qui est utilisée dans presque toutes les applications de moteur longitudinaire, le véhicule propulsion, qui est excellente. Dans le RAM, ça va bien. Mais ça, c'est plusieurs mondes au-dessus. Et je veux dire, et ce qui est drôle, c'est que dans un Mustang 4 cylindres ou dans un Bronco ou dans un Ford F-150, c'est exactement le même design de transmission parce que GM et Ford font la transmission en partenariat. Je peux vous dire que dans un Mustang, c'est vraiment pas la même chose. Et c'est le même numéro de transmission. Ça me fascine, ça.
J'ai déjà parlé à de nombreuses reprises de mon expérience avec un Ford Ranger 2.3 litres turbo.
Au Texas, ben oui.
Au Texas, c'est ça. C'était une des pires combinaisons. C'est pas une question du choix de la transmission du moteur. Je pense que c'est l'agencement, puis comment sont coordonnés, puis comment sont programmés pour travailler ensemble. Il y a un monde de différence entre ça et ce qu'on a vécu avec le Sierra. Mm. Où tu appuies sur l'accélérateur, tu sens même pas le changement de vitesse. C'est presque comme si tu avais une CVT, mais c'est pas une CVT, parce qu'évidemment, c'est pas une CVT. Mais
c'est pas une CVT.
Tu as l'impression que tu appuies sur l'accélérateur, puis le véhicule choisit instantanément la bonne vitesse à laquelle il faut que tu sois.
C'est sûr
faire
que
tu essaies de faire.
Gab, ce qui aide, c'est qu'il y a 460 livres de torque. On s'entend,
oui,
ça l'aide beaucoup.
C'est plus
mais
souple,
tout
disons,
de même, ça aurait pu être, les changements de vitesse auraient pu être inadéquats, ça aurait pu être pas doux, ça aurait pu être genre hésitant, peu importe. C'était numéro un. Ensuite, la consommation d'essence est surprenante. Là, vous allez me dire, ouais, mais là. Mais non! Dans mon essai routier, j'ai fait 830 km de l'autoroute de la ville. Je reste à Ville-la-Salle à Montréal. Donc, moi, là, c'est stop and go. Je travaille à 1 km de mon travail. À tous les jours, je suis allé avec. J'ai fait 11,5, là. Tu sais, dans le fond, là, j'ai pas pris l'écran, là. J'ai mis de l'essence et j'ai divisé 11,5. C'est vraiment impressionnant pour un véhicule. J'ai pas tiré avec, j'ai pas travaillé, mais 11,5.
J'ai fait 12,5 litres au 100, mais je pense que je me suis permis de l'essayer un peu plus. Mais c'est quand même impressionnant, là. Tu sais, quand je pense à ça, 30% de plus de consommation que mon RAV4 pour un 6,2 dans un, une grosse camionnette. Regarde,
un grand Cherokee 3,6 de base, là, ça fait ça.
Effectivement. Donc, ça, c'est quand même.
C'est pas ça parce que c'est pas bon le grand Cherokee. Là. C'est une, t'sais, un Ford Explorer, un Toyota Highlander pas hybride, ça va faire un peu moins, mais c'est proche. Un Volkswagen Atlas.
Oui.
Là, je suis pas en train de. En tout cas, ça m'a beaucoup. Ça m'a impressionné. Ça roule au super, mais par contre, peu importe.
Ouais. Puis de mon côté, pour ce qui est des points forts, il faut que je te dise, Alexandre, quand je suis embarqué dans l'auto, on n'en avait pas encore parlé, donc je suis embarqué dans le Sierra, puis là, je suis tombé en amour instantanément avec une des caractéristiques qui est disparue de tellement d'automobiles aujourd'hui, mais que moi, j'adore.
Et qui va disparaître.
Et qui va, c'est sûr que ça va disparaître. On s'entend, le temps est compté, mais le shifter à colonne, c'est un bras de vitesse à sur la colonne de direction là, pour changer de vitesse. Généralement, t'es, par exemple, dans un RAM, c'est un petit sélecteur qui tourne, ou dans la plupart des voitures, tu vas avoir un bras de vitesse là, sur une transmission automatique, tu es au centre de la voiture, quelque chose comme ça. Mais moi, j'aime tellement la sensation de prendre le bras de vitesse sur la colonne, puis juste mettre ça sur drive, sur reculon, puis partir. T'es, ma première voiture, elle avait, bon, c'était plus comme dans le tableau de bord, là, mais c'est à peu près l'équivalent. Là,
ah, le CRV, ça?
Oui, le CRV, c'était dans le tableau de bord, c'était pas sur la colonne, mais le bras était au même endroit. Fait que déjà, je tombe en amour. Après ça, j'adore les boutons physiques partout sur l'intérieur. Donc, oui,
bon, ça, c'était bien
écran de 8 points quelques pouces, quelque chose comme ça. Mais chaque fonctionnalité, à part le système de navigation, Android Auto, ces choses-là, t'as un vrai bouton physique, il est gros, t'as une bonne sensation, tu sais qu'est-ce que tu fais, t'as pas besoin de chercher dans un menu pour les différentes fonctionnalités. Puis tu l'as déjà dit, là, la combinaison, le 6.2 avec la 10 vitesses, c'est tellement souple, tu manques pas de puissance. C'est pas une voiture sport, là, c'est pas ça du tout, mais c'est incroyable à quel point c'est souple pour un véhicule de cette taille et de ce poids-là. Même si c'est pas une autosport, là, c'est surprenant comment ce mastodonte-là, il est capable de se débrouiller, puis il prend tout ce qu'on lui lance, ça fonctionne, ça se déplace, puis j'étais vraiment agréablement surpris, là, disons, comparé aux autres camionnettes que j'ai conduites dans le passé, puis on va en parler un peu plus loin, là, de la conduite, là, plus en détail, là, mais j'étais assez impressionné. Puis le système de navigation, j'étais un peu déçu parce que j'ai connecté Android Auto, c'est Android Auto sans fil, super bien, Android Auto fonctionnait à merveille, mais j'avais pas dans... Bon, il y a un affichage
Tête-Haut. Ah oui, ça, c'est d'ailleurs qui est très bon, là, tout en couleur, parce que dans la voiture que j'ai actuellement, j'en ai un que je pensais qui était excellent, mais là, excuse-moi, le Volvo, va falloir qu'il recommence, qu'il retourne à planche à dessin, parce que non, ça, c'est 100 fois meilleur. Là.
C'est plus gros, la résolution est impeccable. Tout, t'as des indications du GPS dans le heads-up display, mais pas quand tu utilises la navigation d'Android Auto, fait que ça m'a forcé à disons, aller vers la navigation d'origine
GM, là,
ouais. GM, mais ça fonctionne aussi bien qu'Android Auto. Fait que j'étais comme un peu déçu, mais après ça, après l'avoir utilisé pendant plusieurs jours, finalement, c'était impeccable là, comme navigation. Ça allait super bien. Si je veux, je peux afficher les informations dans l'écran devant moi ou dans le heads-up display ou sur l'écran au centre. Donc, honnêtement, là, j'étais un peu déçu. Là. Quand je suis retourné dans mon RAV4 après, puis j'avais plus l'affichage Tête-Haut. J'avais plus l'écran avec la navigation, puis que j'ai mon cellulaire dans le porte-gobelet comme GPS. C'est pas la même chose, pas en tout. Fait que, ouais. Point fort, mais je suis très impressionné.
Le système d'infodivertissement de GM, ça, c'est un qui ont. Je pense qu'ils ont commencé avec. Quand la Bolt est sortie en 2017, là, c'est là que ce nouveau système d'infodivertissement est arrivé. C'est tellement souple. Honnêtement, ça répond autant bien qu'une interface de téléphone cellulaire. Le GPS, j'ai été, comme toi, extrêmement impressionné. La caméra 360 degrés. Je peux parquer ça dans ma rue sens unique à Montréal en parallèle sans aucun problème. Je pense. Puis c'est pas parce que je suis bon parquer en parallèle.
Combien de caméras il y a sur cette auto-là, Alex?
En avoir au moins... Avec le rétroviseur qui est une caméra comme la Bolt là, puis les autres produits de GM, il doit en avoir au moins 7. Et plus. Moi, là, je vais dire 8, là, mais je les ai pas comptés. Je m'en souviens plus.
Tu sais, t'as la caméra de recul. Ensuite, tu as la caméra qui regarde la tâche remorque. Après ça, tu as la caméra qui regarde dans la boîte. Tu as la caméra qui sert de rétroviseur central. Après ça, tu as une caméra à l'avant. Tu as une caméra en dessous de chaque rétroviseur. Tu as probablement une caméra à gauche, puis une caméra à droite pour la caméra 360. Donc, tu as une dizaine de caméras. Là. C'est impressionnant, là, cette suite-là là, d'aide à la conduite.
Mais c'est important de noter que tout ce qu'on vient de dire là de la technologie, c'est disponible sur les autres produits GM. Parce que, il ne faudrait pas dire « Ah, oh, c'est le Sierra Denali qui a tout ça, c'est merveilleux. » Non, non. C'est General Motors, ils utilisent tout ce qu'ils ont dans leur coffre à outils de plateforme électronique et ils ont tout tiré ce qu'il y avait dans le Sierra. C'est super d'ailleurs parce que la qualité de l'infodivertissement des technologies qu'ils ont mis est excellente. Là. Tu sais, je veux dire, c'est le mot anglais, c'est state of the art. Là. Ça peut compétitionner du Volkswagen, ça peut compétitionner du Mercedes.
Puis la caméra qui remplace le rétroviseur central, en fait, c'est que vous avez un rétroviseur normal que vous pouvez utiliser de manière totalement normale ou vous pouvez bon appuyer sur un petit bouton, là, une petite languette, le déplacer. Puis c'est une caméra qui est située en fait dans le haut de la caisse à l'arrière, qui regarde vers l'arrière puis qui est utilisée comme source pour votre rétroviseur. Donc vous n'avez pas la fenêtre, puis bon, le défrost, là, le déchiffreur, ces choses-là. Vous avez juste une image très, très, très claire, très lumineuse de ce qu'il y a à l'arrière de l'auto. Honnêtement, là, d'un point de vue sécurité, là, je pense que toutes les autos devraient avoir ça.
Ouais. Ensuite, Gab, point faible, parce que ça en prend. Là. Aucune voiture est parfaite, d'ailleurs. Ça n'existe pas. La première chose, quand je l'ai pris vendredi, il y a de cela plus qu'une semaine, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, le Denali, la suspension ajustable, là, ce n'est pas la suspension MagnaRide qu'il y a dans la Corvette, mais suspension adaptative, tout. Je m'assis là-dedans, je pars ça. Bon, il est où le bouton de la suspension? Où est-il? Je prends le manuel, je gosse, là, ça fait comme 20 minutes, je suis parqué à Pointe-Claire, j'attends. En fin de compte, là, après plusieurs recherches, la suspension est adaptative, travaille constamment, et sa job, c'est de travailler pour que ça soit une conduite des plus confortables. J'étais un peu déçu, puis c'est pour ça que je vais dire le point faible, parce que moi, j'aurais pensé que je m'aurais assis là-dedans, là, puis ça aurait été confort, sport, hors-route, trop dur ou trop mou. Il y aurait eu quelque chose. Ou même, genre, pour enlever le roulis en virage. En réalité, quelqu'un qui ne le sait pas va payer pour ça et ne s'en rendra jamais compte. C'est très confortable à rouler pour une camionnette qui a des lames en arrière, là, d'ailleurs, parce que ça swing un peu là, en virage, puis c'est normal parce qu'il y a des lames, mais tout de même, sur l'autoroute, c'est un charme. Par contre, tu sais, c'est parce que sur le site web, c'est écrit en gros, là, standard, la suspension adaptative, tout. Ah, oh, mais je peux pas la configurer, je peux rien faire, je ne sais même pas qui est là, je peux pas l'activer, désactiver. Ça, j'étais déçu.
Mais je pense que toi puis moi, Alexandre, on est des ingénieurs. On veut un bouton où est-ce que je peux ajuster les amortisseurs. T'sais, dans le fond, il y a un mode hors-route, il y a un mode sport, puis il y a un mode, je sais pas,
remorquage.
Trailering, t'es remorquage, puis je pense qu'il y a un autre mode normal, là. Puis ces modes-là affectent sûrement la suspension là, qui travaille très bien de toute façon.
Ben, mais moi aussi, j'ai pas de roulis en virage.
Non, c'est
clairement, ça travaille. Là. Les pneus sont là pour... Tu sais, c'est des bons pneus de route. C'est les mêmes pneus que tu verrais sur un Highlander ou sur n'importe quel gros VUS. Là. Je les ai vus sur des Toyota et des Volkswagen Atlas. Des roues de 22 pouces aussi, ça l'aide. Mais clairement, là, comparé à d'autres camionnettes que j'ai conduites, les Ram, les Ford, beaucoup moins de roulis en virage. Fait que clairement, quand tu tournes, la suspension s'ajuste, pompe du fluide. Ça l'aide beaucoup, ça fait que c'est beaucoup plus intéressant à conduire, puis moins, ça fait moins camion. Mais bon, mon point faible, un autre point faible que j'ai trouvé, le système de suivi de voie, je l'ai appelé le tournoi canadien de ping-pong. Donc, c'est clairement juste pour pas que tu ailles dans l'autre voie. Là. Regarde, c'est pas vendu comme un système de maintien de voie, c'est un système d'avertissement suivi de voie, fait que c'est correct. Vivement le Super Cruise à venir dans la version 2022, ouais, parce que ça a été confirmé.
Ce système-là qu'il y a dans le Sierra 2021 Denali, si tu quittes la voie, il va comme légèrement te ramener, il va faire vibrer le siège, il va légèrement tourner le volant, là, quand même un minimum d'assistance, mais c'est pas il va pas te maintenir dans la voie. Là, puis ça, mais c'est pas que j'étais déçu, je pense que ça va venir, c'est juste pas encore disponible dans ce véhicule-là.
Ça nous amène sur le point, Gab, que la version 2022 du Sierra qui n'est pas encore annoncée, mais la version 2022 du Silverado qui a été annoncée jeudi dernier, va avoir le Super Cruise, un écran, tu sais, va tout avoir. Dans le fond, GM vient de décider de s'ajuster complètement à la compétition.
C'est ça. Ça amène plusieurs
de nos points faibles ont été...
C'est ce que moi j'allais dire, tu sais, le Sierra actuel, celui qu'on a essayé, c'est un modèle qui a été introduit en 2019, ça fait que c'est juste 3 ans, mais ça paraît quand même, là, tu sais, l'écran est relativement petit, à environ 8 pouces. Là.
8 pouces, ouais.
Il fonctionne bien, là. Il est super, il répond rapidement, là. Il fait la job. Là, puis moi, j'ai pas une Tesla, j'ai pas un écran de 22 pouces dans mon auto, mais ça m'apparaît un peu petit. Tu sais, il y a des Hyundai, des véhicules beaucoup moins chers, très de base, qui ont des écrans au moins aussi gros que ça, sinon plus gros. Après ça, on peut... Puis bon, évidemment, là, en 2022, il va y avoir un nouveau modèle, puis je suis pas mal convaincu, je pense qu'on l'a vu, là, il va y avoir un écran de 13.4 pouces dans le nouveau Silverado, on va sûrement avoir la même chose dans le Sierra, ça va faire la job, tu sais. Ça s'en vient, l'année prochaine, ces enjeux-là, ces points faibles, ils vont être réglés. Ouais. Après ça, on peut pas passer à côté, là, le coût, c'est 86 000 $ avant taxe, le véhicule qu'on a essayé. Je vais en parler un peu plus loin là, dans l'épisode de la philosophie, je pense, qui est autour de ce véhicule-là. Mais c'est pas pour toutes les bourses. Là. C'est un véhicule bon pour quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un qui l'utilise, pas nécessairement pour travailler, mais dans le cadre de son travail. Là, c'est une question aussi de statut social. Là, puis montrer où est-ce que t'es dans la chaîne alimentaire là, quand t'as un Denali versus celui qui a un work truck. Après ça, le véhicule qu'on essayait avait le système d'admission d'air puis l'échappement de performance. Bon, l'échappement, honnêtement, c'est enivrant, là, le son du V8 de Corvette, Alex, c'est incroyable, mais je pense que ça vieillit vite. Il y a des gens autour de moi qui appréciaient, moi, c'est sûr que pour une semaine, j'ai adoré, mais je pense que à long terme, surtout auprès des voisins puis de la famille, ces choses-là, ma copine, elle déteste ça, là. Elle trouve ça horrible, je pourrais jamais avoir une
chance que c'est en option, hein.
Mais c'est une option, c'est correct. Si tu veux ça, je pense que pour un échappement en option de performance, c'est juste assez bruyant sans être complètement débile comme une Mustang GT500. C'est juste correct, mais l'admission d'air de performance, on s'entend, là, c'est un peu ridicule. Il y a comme un plastique, un genre de plexiglas par-dessus le filtre à l'air.
Ouais, c'est bizarre.
Honnêtement, je trouvais que ça faisait un peu jouet. Tu sais, un Denali, il y a un côté performance, le gros V8, mais c'est pas censé être taquis comme ça.
C'est professionnel. L'ancien slogan de GM, là, c'était professional grade. Parce que moi, exactement, je crois, là, c'est des véhicules qui sont beaucoup plus conservateurs et retenus, mais c'est excellent, puis le luxe peut être là.
Je pense qu'ils ont réussi à bien intégrer des roues de 22 pouces, mais que ça ait quand même l'air pas... t'as pas l'air d'être un rappeur qui se promène dans son gros camion avec ses spinners. Là. C'est des gros mags, ils sont chromés puis tout. Mais c'est quand même élégant. Et puis l'échappement, oui, si tu prends l'option, il fait du bruit, c'est excitant, c'est enivrant, mais c'est pas non plus débile. T'sais. Puis l'émission d'heure de performance, je trouvais que ça faisait un peu jouet. Ça, honnêtement, je passerais à côté. Un autre défaut, là, mais là, ça, c'est pas un défaut du Sierra, là, c'est une réalité des camionnettes. Là, celle qu'on essayait, elle avait une boîte de 5,5 pieds avec une cabine d'équipe, un vrai 4 portes. C'est incroyable, la taille de l'intérieur. Mais ça fait un véhicule qui est vraiment long. Moi, je me retrouvais souvent le stationné de reculons, disons, dans le fond du stationnement. J'accotais les roues sur la chaîne de trottoir, puis je mettais le derrière de la boîte au-dessus du gazon. Puis généralement, je prenais tout l'espace de stationnement, toute la longueur. Puis si tu veux une boîte de 6,5 pieds, honnêtement, c'est ça que je veux si j'ai une camionnette, parce que je veux pouvoir mettre mon VTT dans la boîte puis fermer le panneau. Mais là, ça devient comme un pied trop long. T'sais. Fait qu'il y a comme une limite. Là. C'est vraiment le fun là, d'avoir des camionnettes qui ont de la place dedans. T'sais, c'est immense là, l'espace pour les jambes que tu as, mais c'est un gros véhicule. Faut faire attention, surtout si vous allez pour la version avec la plus longue porte.
Oui. Puis moi, dernier point que j'ai avant qu'on passe à la prochaine catégorie. Comme j'ai dit, mes parents ont un RAM 1500, là, la génération d'avant, comme la génération du RAM classique, dans le fond, c'est comme whatever. À la deuxième rangée dans la cabine d'équipe, lorsque tu soulèves le dossier, tu peux déplier un plancher qui fait que là, tout est complètement plat. Ou sinon, tu peux re-ranger ce plancher-là et tu vois une énorme cavité pour ranger du stock. Similaire à ce que le Sierra a, mais c'était comme le double de la largeur dans le RAM. Et dans le RAM, tu as en dessous du tapis des petites boîtes, comme un peu dans un Dodge Caravan où c'est que le Stow & Go irait pour rentrer du stock. Tu sais, clairement, je trouve que dans le RAM, tu peux mettre beaucoup plus de choses dans la cabine à l'arrière. Puis là, quelqu'un va me dire, ouais, mais Alexandre, ça fait quoi ça? Ben, c'est parce que t'as pas de coffre dans une camionnette. OK, moi, je suis une personne qui vient d'une voiture, là. Il la met où mon épicerie, là? Moi, j'étais allé au marché de l'Ouest, là, acheter des concombres, faire des cornichons, là, puis là, ça se promenait partout, là. Là, je te l'ai cassé, je vais faire, là.
Mais c'est un bon point. Je pense que l'espace est là, mais l'organisation du rangement, des bagages, ouais. Là, je veux dire, il y a plein de petits espaces d'import, tout ça. T'as en masse d'espace de rangement, là, puis tu l'as dit, là, t'aurais quasiment pu rentrer ton épicerie dans la console centrale, là. Mais à la
fin. Je l'ai fait, là. En fait, non, j'ai rentré le lunch.
Tu sais, dans le cas d'utilisation de, disons, t'as pas de passagers à l'arrière, tu veux juste placer des choses puis pas que ça bouge. C'est vrai que moi aussi, Tu sais, j'ai amené une caisse de bière puis un jeu de quai finlandais chez des amis pour un barbecue. Puis il n'y avait pas moyen que je les place quelque part puis que ça bouge pas. Puis,
non, c'est
ça. Je les aurais pas mis dans la boîte. Donc, ça, c'est
dans
un peu.
Dans le RAM, il y a moyen de comme placer ça. C'est pas un coffre divisé, là, mais dans le RAM avec les petits planchers puis les petites affaires que tu peux sortir et les compartiments sous le tapis, c'est un peu mieux. Est-ce que tu peux changer ça probablement facilement? Là,
ouais, tu peux aussi probablement te mettre une petite boîte ou quelque chose ou un bac à l'arrière, là, surtout si tu n'utilises pas ces places-là. Puis là, ça nous amène sur la conduite.
La conduite. On en a parlé un peu, mais regarde, moi, je vais lire exactement ce que j'ai écrit parce que je me suis pris des notes. Là. Les camionnettes sont de plus en plus civilisées malgré leur gabarit. Par contre, le Denali, peu de roulis en virage. Sérieusement, là, moi, ça m'a vraiment impressionné. Et mes parents ont un RAM avec la suspension à l'air qui supposément s'ajuste. Et ça, là, il n'y a pas de roulis en virage dans un GMC Sierra Denali. C'est impressionnant. Fait clairement que la suspension ajustable y est pour quelque chose. Les très bons pneus de route, qui sont quasiment des pneus d'été, là, ils sont pour quelque chose. Mais ça m'a impressionné. Personnellement, là, conduire à Montréal sur l'île, là, c'était impressionnant.
Ouais, puis moi, j'ajouterais même le groupe motopropulseur, le V8 6.2, tu as l'impression d'être dans un train de marchandises. Là, ça accélère et ça n'arrête pas. Puis je peux pas imaginer comment ça doit être agréable de tirer une roulotte ou quelque chose comme ça avec ça, puis de pas jamais avoir le sentiment que tu manques de puissance. Là. C'est absolument incroyable. Puis en virage, là, tu te dis, là, ça tient la route, il n'y a pas de roulis. Je pense que la suspension y est pour quelque chose. Je pense que pour peut-être compenser le fait qu'ils ont mis des roues de 22 pouces, ils ont mis des très gros pneus. Le diamètre hors tout de ces pneus-là, j'ai calculé, là, ça donnait 32,8 pouces, quelque chose comme ça. C'est un très gros pneu. Là. Donc, ils ont été mettre des grosses roues, mais avec aussi quand même pas mal de flanc. Au point où je pense que même en hors, en hors route léger, là, des chemins forestiers, ça reste probablement très confortable. Puis ça m'a un peu amené à réfléchir au fait que j'ai toujours dit que je voulais un Sierra T4 ou un Silverado Trail Boss, puis je veux des roues de 17 pouces avec des gros pneus. Mais là, ça brise un peu mon rêve
de Sierra T4 Trail Boss,
parce que si ça fonctionne adéquatement avec des roues de 22 pouces, ça veut dire que quand tu as des roues de 17 pouces sur un Silverado Trail Boss de base, ça fonctionne probablement.
Quand tu tournes ton miroir d'aller frotter sur l'asphalte.
Effectivement. Fait que ça, c'est un peu. Je suis comme à la fois impressionné, mais ça brise aussi un peu mes rêves. Puis ça me dit que finalement, mon modèle préféré, c'est peut-être plus le Sierra T4. C'est peut-être le Denali.
Non, mais en tout cas, tout ça pour dire que d'un point de vue, là, d'une conduite civilisée, c'était très impressionnant. Je m'attendais à quelque chose de moins civilisé que le RAM, mais là, c'est beaucoup plus. Là, quelqu'un va me dire ouais, mais c'est pas la même génération. Je comprends, là. Mais le RAM a toujours été une coche en haut là, pour conduire en ville, pour prendre l'épicerie. Mais ça, c'est égal, sinon meilleur.
Ouais. C'est une approche différente. C'est égal, sinon mieux. Moi, sur la route, honnêtement, sur l'autoroute, tu sais, je conduisais.
Ah, c'est un divan, sur l'autoroute.
J'ai créé mon volume de radio, puis j'écoute la radio parler, c'était peut-être un peu fort. Tu sais, j'ai diminué le volume. C'était tellement paisible. Sur le cruise control à 110, sur la 20, à 40, tranquille. Tu sais, c'est vraiment silencieux, c'est apaisant, c'est top qualité.
Oui, l'insonorisation est assez impressionnante. Puis ici, là, j'ai mes statistiques, comme je l'ai dit tantôt, là, mais c'est ça. J'ai parcouru 830 km, j'ai fait 11,5. Gab, toi, si je vais voir dans tes notes, tu as fait 550 km, 12,5.
Oui, puis là-dessus, c'est quand même majoritairement de l'autoroute. Là. Je pense que sur l'autoroute, là, tu peux faire du 10-11 litres au 100. Là, parce que la consommation d'essence affichée, c'est 11,5. Là. Je pense que pas chargé, vous pouvez facilement faire 11,5. En ville, c'est plus comme du 15-16. Là, puis encore là, c'est aligné sur
statistiques.
Mais c'est pas si pire que ça. Puis, honnêtement,
je te dirais que j'ai fait quoi? J'ai peut-être fait 150 km de ville et j'ai remis du carburant. Puis cette petite tank-là était à 13. Fait
que ouais, mais je pense que
comme je te dis, je suis impressionné là.
Ouais, je l'ai dit là, c'est enivrant là, l'échappement du sport, fait que c'est ça.
Puis juste une note avant qu'on passe à la prochaine catégorie. Moi, je pense que pourquoi la consommation est si basse, c'est parce que les 6.2 ont ce que GM appelle le dynamic. Bon, je me souviens plus, c'est le DFM, là, dynamic fuel management. Excusez-moi, hey, j'ai un blanc. Fait que ce que ça fait, pas comme mettons le AFM qui est le active fuel management sur les 5.3. ou sur les anciens V6 ou whatever, les autres moteurs, qui coupent juste, tu tombes de 8 à 4 cylindres. Non. C'est si tu as besoin de un cylindre par tour, tu vas avoir un cylindre par tour. Si tu as besoin de deux cylindres par tour, dans le fond, c'est peu importe ce que tu as de besoin, tu vas avoir, dans le fond, le load que le moteur veut. Puis, c'est fascinant, ça.
Moi, je pense que c'est une approche tellement différente de Ford. Moi, je la préfère. Je trouve ça un peu poche parce que...
Je préfère ça. Moi, j'aime les turbos, mais là, ça, c'est 100 fois mieux.
Dans la réglementation puis dans les surtaxes sur les cylindrées, un V8 6.2, c'est largement désavantagé versus un V6 des biturbo 3.5 litres EcoBoost, par exemple, alors que au final, la consommation d'essence est similaire, puis quand tu tires, probablement que le V8 est plus économique.
Attends, là. On instrumenterait ce véhicule-là, puis on ferait une boucle, puis on checkerait le CO2, là. Probablement qu'on relâcherait moins de CO2 et d'oxyde d'azote qu'un véhicule avec un turbo.
Oui,
c'est grave, hein?
Puis
ça, c'est triste, là. On tombera pas là-dedans, mais ces gens-là vont payer une surtaxe sur le cylindré, tandis que le véhicule, on n'a pas les faits, faudrait le faire, faudrait le tester, mais je suppose, rapidement, j'ai checké, là, juste en fuel flow, tout ça, c'est moins polluant. Ça, c'est capoté.
Oui, puis on avait le petit différentiel hein, aussi, le ratio de 3.23. Ouais. On n'avait pas le max tow package dans celui-là, mais écoute, tu étais à 1300 tours sur l'autoroute, là, c'est facile.
C'est merveilleux. C'est mon genre d'affaire. Bon, prochaine catégorie, Gab, je te laisse aller, la qualité.
Qualité. Moi, ce que j'ai noté, c'est que l'intérieur, il se veut à la fois robuste et luxueux. Je pense que c'est ça l'idée d'une camionnette de luxe. Je crois que le côté robuste, il est très réussi. T'sais, dans le fond, oui, c'est un intérieur en cuir, c'est toutes des surfaces souples, mais tu sens que c'est un cuir épais qui va pas s'endommager, puis il va pas se ramasser cette camionnette-là, comme toutes les vieux pick-up GM de 20 ans avec le banc conducteur déchiré sur le côté à gauche.
Tu parles-tu du pick-up à mon frère, là?
Ben, je pense que toutes les...
Il y a 306 000 km.
Toutes les pick-up GM de 15-20 ans, ils ont tout le banc déchiré conducteur. Je pense que ça a peut-être arrêté en 2007, là, mais avant la génération d'avant, c'est sûr que c'était comme ça. Je pense pas que ça va être ça avec ce véhicule-là. C'est très robuste, c'est calme, c'est apaisant. C'est super, mais d'un point de vue luxe, est-ce que c'est si luxueux que ça? Peut-être un peu moins. Là. Je pense que ça paraît que c'est un véhicule de travail qu'on a rendu luxueux. On a ajouté des matériaux de qualité qui sont quand même robustes, mais ça donne pas la sensation que c'était conçu fondamentalement non. Comme une auto de luxe. Puis ça, c'est la réalité
de toute façon. Ce qui est fascinant, c'est que les gens qui achètent ça, là, ça ils s'en foutent. Il n'y a personne qui a une Mercedes qui va aller là-dedans parce que c'est pas le même genre de monde. Fait que c'est tu sais, ils demandent pas le même genre d'attention détail. Mais par contre, l'assemblage est excellent. Là. Je dis pas, tu sais, j'ai trouvé certains plastiques durs qui sont très cheap, mais la plupart des surfaces que tu touches, c'est numéro un. Mais
c'est
l'assemblage, aucune sonnette, aucun bruit, rien qui craque. Fait que non, déjà là, le trois quarts de la job est fait.
Effectivement, la qualité est là. Je pense que tu le vois dans les trucs qui sont... Ben, c'est drôle, hein? Tu le vois dans les choses que tu vois pas. Les boutons, par exemple, derrière le volant pour le volume, c'est sûr que c'est les mêmes que dans un modèle t'es de base. Bon, en tout cas,
ben, c'est même dans une boîte, Gab.
Ben, effectivement, t'es, puis c'est des boutons, c'est un plastique dur. Tu pèses dessus, faut que tu pèses fort jusqu'à temps qu'ils finissent par s'enclencher. T'es, c'est pas la sensation, si tu veux, d'un petit bouton dans une auto de luxe. Mais je pense que t'as raison. Les gens, quelqu'un qui achète un Sierra Denali, c'est pas ça qu'il veut.
Mais c'est pas une critique aussi que je fais, là. Ben, t'sais, c'est une critique. Est-ce que ça pourrait avoir le même assemblage qu'une Mercedes? T'sais, je veux dire, GM, ils font des Cadillacs, puis ils sont capables d'avoir un meilleur assemblage.
Si
oui,
c'était une Mercedes, ça coûterait 120 000. T'sais, fait que c'est...
Même plus que ça.
Je veux dire, le seul véhicule luxueux, extrêmement robuste qu'il y a sur le marché, de ce genre-là, c'est le Mercedes Classe G, puis ça coûte 250 000.
Fait que, ouais, exactement.
Le robuste et de qualité Mercedes, c'est un Classe G, ça coûte 250 000.
Une autre chose que moi j'adore, parce que moi j'aime ça, là, moi j'ai passé comme je pense une demi-heure en dessous du véhicule à regarder comment il était assemblé en dessous, là. J'en parlerai pas, là. Mais très belle application de l'anti-rouille. Il y a un anti-rouille de compagnie qui vient avec ce véhicule-là, le bas de caisse, là, avec genre du... Tu vois là que c'est comme une sur-application de Gravel Guard, j'aime pas le mot anglais, sur l'aile, là, quand que la boîte commence, puis que à l'élargie pour laisser la place à la roue, là. T'as un plastique, t'as de l'application, c'est ça, là. Moi, quand je vois ça, là, c'est du voiture européenne. Ça, c'est fait pour durer. Ça, c'est impressionnant. Fait que j'ai trouvé ça superbe. Ça m'a impressionné. Ça, c'est un point de qualité que bravo GM. Puis ça, personne n'en parle, là. Ça, là, pour le Québec, là, c'est winner.
Non, je pense que ça va être un véhicule durable. T'es, au niveau de la fiabilité perçue,
ben, la mécanique,
il n'y en aura pas de problème. Il n'y en aura pas. Là. Ton V8 6.2, ta transmission, tout ça, ça va tenir le coup. Là. Et puis je pense même si tu travailles avec. Appréciation générale, Alex. Moi, je me suis écrit un genre de petit discours, mais veux-tu commencer?
Ben, c'est un véhicule qui a été clairement adapté pour sa clientèle, puis probablement plus conservatrice. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Ford, là, surtout ce qui vient de sortir là, avec le banc qui baisse, 42 positions, puis tout ça. Là, le Ford, là, c'est over the top. ils veulent aller chercher ce que RAM fait avec le 1500. Moi, là, je me suis assis dans le Denali, puis tout le long que je l'ai conduit, je me suis dit, qui va acheter ça? Et là, j'ai comme réfléchi, je me dis, dans le fond, moi, là, mettons, là, demain matin, je m'achète une terre agricole, puis je décide que je fais pousser du soya, whatever, ma copine a une boulangerie sur le terrain, ou une pâtisserie, peu importe, quelque chose qui est possible. Qu'est-ce que je prendrais? J'aurais probablement un véhicule normal, électrique, mais la camionnette, mettons, pour tirer une roulotte, tirer des affaires, puis avoir les moyens, j'aurais ça, là. Parce que j'ai pas peur de le briser. J'ai une mécanique indestructible. Puis, à cause que c'est luxueux, mais pas trop exagéré, j'aurais pas l'impression de tirer mon argent par les fenêtres. Parce que, à la fin, l'intérieur, là, il peut prendre de l'abus. Parce que, tu comprends ce que je veux dire, Gab? Tu sais, c'est moins impressionnant en termes de luxe que ce qu'on voit de Ram et Ford. Mais en même temps, c'est assez. Puis tout est là pour que ça fonctionne. Non, c'est ça mon point quand je dis conservateur. Puis il y a des gens, puis c'est les gens qui ont du GM, c'est des gens plus conservateurs, puis c'est correct. Puis eux autres, tu sais, à la fin, les chefs parlent pour eux-mêmes, là, c'est la deuxième camionnette la plus vendue en Amérique du Nord. Fait que clairement que ça marche, là.
Oui, clairement, GM a fait quelque chose qui fonctionne. Puis moi, ce que j'ai à dire, c'est que j'avais une idée un peu préconçue de pourquoi les gens achètent un Denali. Tu sais, j'y avais longtemps réfléchi avant qu'on fasse l'essai, mais c'était une idée. Je l'avais pas encore vécu, je l'avais pas encore compris. Puis avec le recul, mon idée était pas mauvaise. Tu sais, un Denali, c'est pas la voiture de tout le monde. C'est non. Pas la voiture de l'employé, c'est le camion du boss. C'est le gars qui passe 6 heures par jour dans son camion. Il arrive sur un chantier, les gens voient le 1 mètre carré de chrome qu'il y a sur la grille. Tu sais que c'est le boss qui vient d'arriver sur le chantier. Il y a une question de prestige, de prestance. T'es associé à ces véhicules-là que maintenant je comprends. Puis soyons francs, là, tous les constructeurs, que ce soit Ford ou Ram, là, ils ont un équivalent. T'es une version super luxueuse.
Le King Ranch, le Longhorn.
En fait, ben oui, mais ça, c'est même pas les versions les plus chères. C'est le Ram Limited, puis c'est le F-150 Limited. J'ai été voir sur le site de Ford, un 150 Limited, là, avant les taxes, là, t'es pas mal à 100 000.
T'as pas le Platinum aussi?
Oui, mais le Platinum, c'est en dessous du Limited. Fait que c'est 150 Limited, Ram Limited, les modèles les plus chers. Puis, t'arrives sur un chantier là, avec un Denali. Là. Je pense que les gens ils vont le reconnaître. Puis,
oui, bien le mot, juste vois, le mot, Denali.
Je trouve ça un peu drôle que tu me parles du Platinum puis du King Ranch puis ces affaires-là, parce que le seul dont les gens vont reconnaître le nom, c'est le Denali. Puis si tu dis « j'ai un Denali », ben les gens ils savent que c'est un Sierra. Ouais. Ou à la limite, peut-être un Yukon, tandis qu'un Limited, ben, c'est un nom qui c'est une version, un nom de version qui est associé à tout plein de véhicules. Je pense quand même qu'il faut que GM soit prudent de ne pas diluer ce nom-là. Ils ont mis le nom Denali sur plein d'autres modèles, entre autres sur le GMC Canyon. Je pense qu'il faut faire attention. Ouais. Je pense que Mercedes, Audi, BMW avec les Airline, BMW, Audi avec
AMG
les
Airline, Line, BMW whatever, avec toutes ces affaires-là.
M Sport, AMG Line, AMG Sport, ce genre de choses-là, faut faire attention. En même temps, il y a des gens en marketing qui savent qu'ils vont faire plus d'argent s'ils font ça. Ça, c'est pas le faire. Mais je pense qu'on va conclure sur notre citation que toi puis moi, on connaît bien, qu'on a mis sur la page Instagram. C'est que quand tu peux avoir un pick-up avec un moteur de Corvette, tu prends le pick-up avec le moteur de Corvette.
C'est tout dire. Et tu peux prendre aussi le Yukon ou le Tahoe avec le moteur de Corvette aussi. C'est permis, ça.
Oui, c'est permis aussi. Yukon Denali avec le moteur de Corvette. Oui, je suis d'accord. Tu m'enlèves les mots de la bouche.
Fascinant, ça. Donc, ça conclut pas mal notre essai. Gab, t'as-tu autre chose à rajouter tout seul? Parce que là, c'est la première fois qu'on fait ça. On va essayer d'être de plus en plus cousu parce que là, à la fin, on commence. Mais oui, je pense qu'on a tout
besoin de ce qu'on avait à donner là-dessus. Augmenter l'audience, puis être capable d'en faire plus, et c'est comme celle-là. Puis, on sait que le Silverado électrique s'en vient bientôt. Alex, j'ai tellement hâte d'essayer le futur Sierra Denali électrique. Il n'est pas annoncé. C'est sûr que ça va venir.
Ben, ça va exister. Mais attends une minute, il y a F-150 électrique aussi exister, à essayer. Il y a un hypothétique Toyota Tundra hybride qu'on ne sait pas s'il est plug-in ou pas plug-in à essayer.
Je pense qu'Alex, il faut adopter la stratégie. Le Tundra, tant qu'il n'est pas dévoilé, il n'existe pas. Honnêtement.
Ouais, c'est vrai, il n'existe pas.
Là, tout. On a essayé le Sierra Denali. Faut se trouver un 150, faut se trouver un RAM, faut les essayer.
Ouais. Parce qu'électrique, évidemment, il n'y a pas grand monde qui l'ont essayé à part le président des États-Unis. Là. Ça ne sera pas tout de suite, mais évidemment, ce que j'aimerais, ça serait d'essayer un RAM équipement similaire, un F-150 équipement similaire. Ça va nous donner une bonne base, malgré qu'on en a conduit beaucoup des camionnettes. Et après ça, il va falloir retourner dans les voitures électriques parce qu'évidemment, on ne peut pas les laisser toutes seules, eux autres.
Ça va oui, je suis d'accord. Là. On est sorti un peu de pas de nos racines, là, mais on essaie de faire à peu près quoi 50% de contenu ces véhicules électriques. On est vraiment sorti de ça. Il va falloir qu'on y retourne bientôt aussi.
Non, mais la consommation d'essence était raisonnable, fait que c'était correct.
C'est correct, c'est correct. C'est encore fait. Écoute, c'est peut-être un des derniers véhicules de ce genre-là qui va exister. Puis
je crois que oui, parce que honnêtement, parce qu'il va y avoir de l'électrification qui va s'ajouter, puis on ne trouvera plus des affaires comme ça. Parce qu'un V8 aspiration naturelle qui fait une consommation si basse, là, ça, là, ça n'existe plus. Ça ne se trouve plus. Là. Je ne sais pas où même où trouver ça. Là, parce que les autres applications de V8, c'est des affaires qui sont beaucoup plus robustes puis qui tirent beaucoup plus, qui ont des consommations plus élevées parce que c'est normal, mais ça, clairement, c'est un compromis qui fait... Tu sais, je veux dire, on en reparle encore, mais ça me fascine. Là. Peu importe le moteur que tu choisis dans ce véhicule-là, tu vas avoir à peu près la même consommation. Fait qu'en réalité, tu vas juste payer pour la puissance, tu ne payes pas pour le désavantage de la consommation.
Oui, puis le passé du 5.3 au 6.2, c'était quoi? 3 000 $ dans ce modèle-là. Dépendamment près, ouais. Du modèle, là, à peu près 2-3 000 là. C'est moins cher que le en diesel
fait,
aussi.
En fait, je vais donner un truc. Si quelqu'un doit acheter un 2021 là, à cause de la pénurie de puces, tu n'as pas le Dynamic Fuel Management puis le Active Fuel Management sur le 5.3 en ce moment. Donc, la consommation d'essence est beaucoup plus élevée parce qu'il tourne toujours sur 8 cylindres de 5.3 en ce moment en 2021. Et le 6.2, ils ont conservé ces technologies-là pour sauver l'essence.
D'autant plus de raisons d'acheter un pick-up avec un moteur de Corvette, Alex.
Absolument. Fait que sur ce, Gab,
à la semaine prochaine.